Vous êtes sur RTL. Pascal Praud sur RTL.
Sandrine, donc pas de pas d'hommage national particulier selon vous pour les victimes du Covid ?
Non, pas d'accord. Je pense qu'il y a bien d'autres priorités. En France, on a quand même 157 000 morts du cancer par an. Il n'y a pas de deuil national. Donc, je pense qu'on a bien d'autres priorités pour l'instant que prévoir ce genre de choses, en fait.
Moi, je disais tout à l'heure que la meilleure manière de rendre hommage aux victimes du Covid, ce serait de doter l'hôpital. Alors, c'est pas forcément une question de moyens, mais parfois une répartition des moyens ou une meilleure organisation, et puis également revaloriser le salaire des infirmiers, infirmières, puisqu'on a parfois découvert des salaires qui sont assez bas.
Alors, je suis entièrement d'accord avec vous, si ce n'est qu'il n'y a pas que des infirmières à l'hôpital non plus. On pourrait en parler des heures. Il y a bien des choses qui sont compliquées entre les hôpitaux, les CHU, etc. Donc, il y a une différence déjà de salaire entre les personnels. Oui, je pense qu'effectivement, déjà, si on augmente le salaire des infirmières, il y en aura déjà peut-être plus. Faut quand même savoir que même une infirmière en réa, parce que je peux vous en parler, parce que ma fille est infirmière à l'hôpital de Bourgoin, Jallieu, en réanimation, et qu'elle gagne 1 500 euros. Alors qu'elle fait des week-ends et des nuits. Donc, et avec tous les risques qu'elle a pris depuis le mois de mars. Donc voilà.
C'est vrai que c'est
La prime, elle ne l'a pas eue. La prime de 1 500 euros, il faut quand même savoir que quand vous êtes un hôpital d'une petite ville, que vous n'êtes pas un CHU comme Grenoble, vous n'êtes pas dans la même catégorie. Donc du coup, les primes ne sont pas les mêmes. Pourtant, le boulot, ils l'ont fait. Voilà.
Vous avez raison, Sandrine. Mais c'est vrai que c'est intéressant que vous-même, en tant qu'infirmière, ne souhaitez pas forcément une journée hommage ou un hommage national. C'est assez intéressant et c'est difficile. C'est un peu piégeux comme question parce que je le disais tout à l'heure à Christelle, si on répond non, on a l'impression d'être un sans-cœur. Donc si on répond oui, c'est sans risque, j'ai envie de dire, dans le monde d'aujourd'hui.
Si je suis sans-cœur, je pense que... Enfin, mes patients peuvent en parler. Je pense qu'on a quand même... notamment en libéral, il faut savoir que la première, en mars l'année dernière, on s'est retrouvés sans rien. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, il y avait quand même un peu du matériel. Nous, les surblouses, les masques, les gants, on n'en avait pas. Donc on s'est débrouillé comme on a pu, on a jonglé, on a eu des systèmes D, on s'est débrouillé. Les patients Covid, dont on est sûr qu'ils étaient Covid, ils n'ont pas été diagnostiqués. Donc on a quand même pris des risques énormes. Donc, me dire que je suis sans cœur, alors là, non.
Je vous le disais pas, bien évidemment, parce que je pense comme vous, d'ailleurs. Mais je disais, c'est piégeux, on peut apparaître comme sans cœur.
Voilà, il faut savoir quand même que là, le troisième confinement, je vais vous dire, en tout cas, nous, à Grenoble, moi, les gens, je les vois circuler. Je vais chez les gens, donc je sais, j'ai travaillé pour le week-end de Pâques. Je sais que Pâques, en famille, ça a été bien fêté. Je sais aussi je le vois, il y a des restaurants qui servent des gens par la porte de derrière. Je me demande, le confinement, en fait, personne ne le respecte. Donc, je me demande à quoi ça sert, parce qu'en fait, on est en train de coincer tout le monde. On s'imagine que le confinement va diminuer le nombre de cas, alors que c'est pas vrai. Enfin, je veux dire, des fois, faudrait peut-être venir un peu sur le terrain, mais sur le terrain, c'est pas là-haut, à Paris, et c'est vraiment chez les gens, quoi, dans la vraie vie. Donc,
merci. Merci beaucoup, Sandrine, pour ce premier témoignage de l'émission. Franck est là. Franck est artisan et qui habite Lyon. Bonjour, Franck. Même question.
Bonjour, Pascal.
Hommage national pour les victimes du Covid ?
Non, je suis contre. Je suis absolument contre. Mêmes arguments que la dame qui est passée juste avant moi. Je pense que c'est pour cacher l'ampleur du désastre dans la gestion du Covid. Vous savez, Pascal, si vous me donnez 30 secondes, je voudrais juste vous dire quelque chose de très important. Première vague, 30 300 morts. Deuxième et troisième vague, celle pour laquelle on n'a pas confiné, c'est-à-dire celle pour laquelle on s'est fichu de nous en nous disant, on nous fait des confinements légers qui n'en font pas. D'ailleurs, l'auditrice que vous avez eue juste avant vous le confirme, 60 000 morts. C'est-à-dire que première vague, on stoppe tout, 30 000 morts. Derrière, on rouvre tout et surtout, on ne prend pas les mesures qu'il faut, c'est-à-dire on ne commande pas les vaccins et on ne fait pas ce qu'il faut. Et 60 000 morts. Donc je pense que cette journée de commémoration, c'est pour boucher les yeux aux gens, c'est pour fermer les yeux aux gens sur l'ampleur du désastre dont a fait preuve, et sur la naïveté et sur la médiocrité dont a fait preuve le gouvernement sur la gestion de la crise. Comme vous le dites souvent, ils ont tout loupé. Et comme l'a dit la dame juste avant vous, vous savez, moi je suis un enfermiste. Hein. Je ne vais pas vous le cacher.
Vous êtes un ancien ?
Non, moi je suis un enfermiste.
Ah, un enfermiste ?
Moi je suis un enfermiste.
J'avais mal compris.
Je suis un enfermiste.
Donc vous souhaitez enfermer tout le monde ?
Pas du tout. Moi ce que je souhaite, c'est que...
Un enfermiste, ça enferme tout le monde.
Oui, mais si on enferme, derrière il faut vacciner. Si on enferme sans vacciner, ça ne sert à rien. Puisque on punit les gens, on les oblige à rester chez eux, et dans le même temps, vu qu'il n'y a pas de vaccination ou très peu de vaccination,
quand même la vaccination. On est aujourd'hui, j'ai les chiffres exactement. Total des premières injections, il y a 11 millions de gens qui ont reçu une première injection. Et à l'intérieur de ces 11 millions, il y a même 4 millions de gens qui ont reçu la deuxième injection. Donc c'est quand même intéressant.
Oui, la vaccination monte doucement, mais comme l'a dit la dame juste avant, le petit confinement qu'ils font maintenant ne suffit pas. Vous voyez, on est entre 300 et 400 morts tous les jours. On est à 40 000 contaminations tous les jours. Malheureusement, ça ne suffit pas à ralentir suffisamment l'épidémie. On va passer les 100 000 morts et on a un gouvernement qui veut boucher les yeux aux gens en faisant cette journée de commémoration. Je pense que c'est un affront aux victimes. Je pense que c'est un affront aux victimes du Covid de faire ça. Vraiment, si vraiment ils avaient fait tout ce qu'ils pouvaient, pourquoi pas? Mais dans ces conditions, non, il y a bien d'autres choses à faire. Doter les hôpitaux de moyens, doter les hôpitaux de personnel, doter les hôpitaux de structures, de matériel, qui commencent déjà par faire ça, et puis après ils pourront venir dire on fait une journée.
Ben, merci beaucoup, Franck.
Le compte n'y est pas.
Eva, merci beaucoup. On va marquer une première pause. Je salue Greg Caradoni et l'ensemble de la régie. Aujourd'hui, avec Laurent Tessier, il y a Cyranouche, il y a Evan, il y a Pierre-Louis, il y a Olivier qui sont là au standard, qui vous accueillent comme tous les jours. Vous pouvez les appeler, bien évidemment. Et nous continuons, non pas le combat, mais la discussion.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Pro,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Laurent Tessier, bonjour.
Bonjour Pascal, bonjour à tous. Faut-il organiser une commémoration, un hommage national pour les victimes du Covid? La France s'apprête à dépasser le lourd bilan de 100 000 morts depuis le début de l'épidémie. Cet hommage est-il indispensable? Cela doit-il rester du domaine de l'intime? Richard Ferrand, le président de l'Assemblée nationale, a donné son avis à Alba Ventura mardi matin sur RTL.
Oui, je trouve qu'aujourd'hui, il faut lutter pour la vie. Et je ne vis pas comme une nécessité intérieure le besoin de commémorer nos morts de cette pandémie. Elle peut, bien sûr, honorer ses propres morts. Vous me parliez de commémoration officielle et nationale. C'est comme ça que compris, madame. Mais il me semble que cela relève de fond de l'intime.
Et pour Axel, sur la page Facebook RTL, les auditeurs ont la parole. On ferait mieux de vacciner toute la population. Fabien, lui, n'est pas emballé. Hein. Ce n'est pas ce que l'on attend. Ça donne juste bonne conscience. Alain préfère que le gouvernement soit plus ferme avec celles et ceux qui ont des comportements irresponsables. Et dans ces cas-là, rajoute Sophie, rendant hommage également aux victimes du cancer, d'AVC et du sida.
On n'a eu personne encore qui souhaite un hommage national, donc on va se tourner vers Christophe, qui est logisticien dans le Pas-de-Calais. Bonjour Christophe.
Bonjour Pascal.
Oui, merci d'être avec nous. A priori, vous êtes pour un hommage. Sous quelle forme ?
Sous une forme de jour férié, pourquoi pas. Moi, j'estime qu'aujourd'hui, nos ados pourraient effectivement se souvenir de ces 100 000 morts. Aujourd'hui, on a des jours fériés en France. Et je ne suis pas certain que nos ados, que nos enfants sachent forcément pourquoi il y a un jour férié, pourquoi on ne va pas à l'école, pourquoi on ne va pas travailler. Là, ça serait peut-être l'occasion justement de se dire « Ah oui, effectivement, ça vaut peut-être le coup de se poser et de se souvenir. »
Alors, des jours fériés en France, il y a le jour de l'an, le 1er janvier, il y a Pâques, il y a le 1er mai qui est la fête du travail, il y a le 8 mai qui est la victoire des Alliés, il y a le 13 mai qui est l'Ascension, il y a le 24 mai qui est la Pentecôte, il y a le 14 juillet qui est la fête nationale. Il y a, qu'est-ce qu'il y a encore ? Il y a le 15 août, donc qui est la fête de l'Assomption. Il y a la Toussaint, le 1er novembre. il y a le 11 novembre qui est l'armistice et il y a de Noël.
Donc,
cela fait 4 et 4, 8 et 3, 11 jours fériés. Donc vous souhaitez en ajouter un 12e et vous trouvez que par rapport à aux raisons que je viens de citer qui justifient un jour férié, vous trouvez que ces 100 000 morts Covid sont à mettre, par exemple, en parallèle aux 1 500 000 morts du 11 novembre que l'on célèbre chaque année, l'armistice. Hein.
Je comprends bien la question, Pascal, mais moi je ne sais pas. Alors c'est le cœur qui parle, c'est le cœur. Voilà.
Et à quelle date, ça serait au début du confinement, le 17 mars de l'année dernière. Vous voyez, un jour férié. Alors évidemment, si vous demandez aux Français est-ce qu'ils veulent un jour férié de plus, évidemment, je peux imaginer ce qu'ils vont répondre. Mais est-ce que ce serait une bonne chose, sachant qu'on cherche déjà à diminuer des jours fériés, hein. Je vous rappelle que c'est la Pentecôte qu'on cherche à parfois zapper aujourd'hui.
Le débat est ouvert. Après, oui, effectivement, peut-être en supprimer le moins important. Et puis
et le remplacer,
voilà.
Alors
et le remplacer mais après voilà, le débat est ouvert. Moi c'est le cœur qui parle, voilà, il y a
parce que le dimanche 1er novembre qui est la Toussaint, j'ai envie de dire, c'est déjà une journée qui permet de se souvenir, hein, de nos morts.
Ouais, vous avez raison aussi, tout à fait, mais c'est particulier, c'est le Covid. Donc
vous avez été touché personnellement par le Covid dans votre famille?
Personnellement, non. Mais j'ai mon papa qui a été hospitalisé à l'époque du Covid. Le service hospitalier, effectivement, a été vraiment très très humain. Nous a permis d'aller le voir. Il est décédé d'un cancer, rien à voir. Mais vraiment humain, nous a permis d'aller le voir malgré les restrictions. Et effectivement, je pense que si, comme vous le dites, il faut absolument mettre des moyens financiers et matériels au service hospitalier, je pense que...
En tout cas, une meilleure répartition, parce qu'il y a des moyens, visiblement, il y en a, mais peut-être y a-t-il trop d'administratifs et pas assez de gens sur le terrain. C'est ce qu'on me fait remonter de la PHP. La PHP, c'est le premier employeur de l'Île-de-France. Il y a 35% des gens qui sont à des tâches administratives. Et il n'y a que 65% des gens qui sont dans les hôpitaux, j'ai envie de dire, en tout cas sur le terrain médical.
On n'aurait pas dû attendre le Covid, je pense, pour leur donner les moyens. Pour moi, je pense qu'il faut absolument déjà, effectivement, soigner le médical, soigner tout l'hospitalier, ça c'est sûr, leur donner les moyens de travailler, de nous soigner, mais je pense qu'il aurait dû fallu le faire bien avant. Bon là forcément, si ça se fait grâce au Covid entre guillemets, tant mieux, mais c'est le cœur qui parle, c'est forcément il fallait quelqu'un qui soit pour, il y a beaucoup de personnes qui seront contre. Donc,
merci.
Permis de m'exprimer.
Bah, écoutez, et c'était en tout cas intéressant d'entendre vos arguments. Merci beaucoup, Christophe. On va poursuivre, il y a encore un autre témoignage. Olivier nous attend, on parlera également des restaurateurs. Est-ce que vous y croyez à la mi-mai? Est-ce que nous serons ouverts? Quand je dis nous, est-ce que les restaurants seront ouverts? Bien évidemment. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro. Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
C'est donc Olivier qui nous attend dans le Calvados. Bonjour, vous êtes commercial, Olivier.
Oui, bonjour Pascal.
Pour ou contre un hommage national pour les victimes du Covid?
À 200% contre. Et j'ai expliqué à votre collaborateur tout à l'heure pourquoi. Alors, en vous attendant, j'écoutais les témoignages des deux précédents auditeurs. Il y a Sandrine et puis ce monsieur tout à l'heure qui parlait avec le cœur. Bah oui, il parle avec le cœur, mais j'ai envie de lui dire, faudrait peut-être ouvrir un petit peu les yeux. Parce que sur les 100 000 morts du Covid, combien sont réellement morts du Covid? Je vais vous prendre un exemple. Dans ma famille, au mois de février dernier, j'ai une tante qui était en EHPAD et qui était atteinte de la maladie de Parkinson. Et sa fille, qui est dans le milieu médical, a eu toutes les peines du monde pour faire enlever du certificat de décès cause Covid. Vous voyez ? Bon, donc ça, la première raison de
Mais elle était morte du Covid ?
Non.
Elle n'avait pas le Covid du tout ?
Pas du tout.
Alors ça, c'est encore autre chose, parce que ce qu'on dit souvent et qui est une réalité, mais on n'a pas de statistiques, c'est mourir du Covid et mourir avec le Covid. Et ça, on est tous d'accord que ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire qu'une personne, par exemple, qui a un cancer depuis de nombreuses années et qui attrape le Covid, et ce Covid accélère sans doute sa mort, c'est pas la même chose que de mourir alors qu'on est en pleine forme, qu'on n'a absolument aucune comorbidité et qu'on meurt précisément du Covid. Mais il n'y a pas de stats là-dessus.
Non, mais bien entendu, Pascal, mais il est clair qu'une personne qui est déficiente immunitaire, on peut très facilement coller l'étiquette mort Covid. Voilà. Et là, j'en ai la preuve. Et je peux même vous dire que son mari, qui est dans la même EHPAD qu'elle, on a refusé à sa fille qu'il soit présent aux obsèques de sa femme. Voilà.
Oui, ça c'était au mois de mars dernier, sans doute.
C'est aujourd'hui. Au mois de février.
Bon. De cette année ?
Oui, de cette année.
Ça, c'est incroyable, parce qu'on on imaginait quand même que les choses soient différentes.
Non, ça m'a été rapporté par...
Alors, il faudrait vérifier, pardonnez-moi de le dire comme ça, mais je suis tellement étonné, il faudrait vérifier ce que vous dites, et c'est pas...
Écoutez, ça s'est passé
désobligeant ce que je dis, mais...
Ça s'est passé en Seine-et-Marne, la fille de ma... C'est qui était ma marraine, et elle-même cadre de santé dans un hôpital de Seine-et-Marne, c'est elle qui m'a rapporté ses propos, donc je vois pas pourquoi elle m'aurait raconté...
Oui, alors parfois... Il faut toujours vérifier, ça c'est le réflexe journalistique que je peux avoir parfois. Mmh. Mais Olivier, pour revenir sur le hommage national, pourquoi vous dites non ?
Je dis non pour deux raisons. La première, je viens de vous l'évoquer, parce que je suis convaincu que sur
il y en a moins que ça.
Mais bien entendu.
Oui, mais
bien
comme on n'a pas de stats, c'est compliqué. Et l'autre raison ?
Bon, l'autre raison, c'est que pour avoir écouté votre antenne il y a quelques jours, on a rapporté le nombre de morts Covid par jour à l'équivalent d'un Airbus, je crois, à peu près 300 morts par jour. Et j'ai même entendu sur la même antenne, dans les grosses têtes, Laurent Ruquier s'étonner de cette chose-là. Comme quoi, on focalise sur les 300 morts par jour, alors que quand vous allez vous renseigner sur le nombre total de morts par jour en France, on est aux alentours de 1200 à 1300. Ça veut dire que on focalise uniquement sur ces 300 personnes. Alors, je n'ai pas un cœur d'artichaut, je reprends ce que vous avez dit tout à l'heure. Je ne suis pas insensible, bien entendu, au chagrin des familles qui sont directement concernées. Mais pour autant, ça veut dire qu'on laisse de côté les 1000 autres personnes qui sont mortes de toute mort possible.
Non, mais convenez quand même que 300 personnes, c'est-à-dire qu'un quart des gens qui ne meurent que de la même cause, alors que sur les trois autres quarts, il n'y a pas une proportion aussi grande d'un paramètre qui ferait mourir. Vous voyez, d'un cas ou d'une maladie ou d'accident, que sais-je, qui ferait mourir. Là, on est sur la cause de un quart des gens qui meurent chaque jour, c'est le Covid. Ça pourrait... C'est tout à fait remarquable au sens premier du terme.
Mais je n'en disconviens pas. Je vous dis encore une fois, je ne suis pas là en train de vous dire qu'il faut complètement occulter ça et se foutre complètement de ces 300 morts par jour. Loin de moi de penser ça. Mais pourquoi aller jusqu'à un hommage national.
Donc c'est la question qu'on pose.
Je vous remercie d'avoir évoqué justement avec vos autres auditeurs tout à l'heure une hypocrisie de notre gouvernement. On est en plein dedans.
C'est pas ça, c'est qu'on est dans de la com. Vous dites hypocrisie, mais aujourd'hui c'est dans de la com. C'est-à-dire qu'on est dans beaucoup de célébrations.
Ça revient au même, Pascal. Ça revient au même.
Oui, vous avez raison. Vous avez raison.
Attendez.
Vous avez raison. La com, c'est une forme d'hypocrisie. Vous avez raison. Vous avez raison. Bien joué, Olivier. Merci en tout cas. Merci de votre témoignage. Est-ce que nous allons marquer une nouvelle pause ? Greg Caranoni, que je salue en ce jeudi.
Je vais vous répondre. L'émission a commencé ?
Oh, ça c'est rigolo. Ça, c'est drôle, ça, franchement. Ouais, bon. Je vous le confirme. Mais c'est vrai qu'avec votre réalisation, ça s'était pas vu.
Faisons une pause.
Je blague. Bon, la pause. Et est-ce qu'on sera rouvert le mi-mai? On est avec un restaurateur de Saint-Raphaël. Moi, j'ai vraiment envie d'aller en terrasse, hein, quelque part, prendre un café, déjeuner. Qu'est-ce que j'en ai assez, en fait? À tout de suite.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Laurent Tessier.
Emmanuel Macron, président, fin d'après-midi, une réunion pour préparer un calendrier de réouverture secteur par secteur. Rappelez-vous ce que disait le chef de l'État le 31 mars lors de son allocution.
Cette tenaille qui va nous permettre, à partir de la mi-mai, de commencer à rouvrir progressivement le pays.
Un retour en terrasse, dans les restaurants, dans un mois, vous l'imaginez. Didier Chenet, le président du groupement national des indépendants en hôtellerie et restauration, y croit, il était l'invité de RTL ce matin.
Elle est tenable dans la mesure où le président n'a pas mis de barre à cette ouverture. Vous savez qu'au mois de décembre, quand nous avons été fermés, on avait dit qu'on ne rouvrirait que si la barre des 5000 en réanimation donc serait atteinte ou quoi. Là, il n'y a pas eu de barre. Deuxièmement, nous sommes prêts. Vous savez, ça fait des mois que nous sommes fermés. Nous sommes prêts.
On verra bien, soupire Marie sur nos réseaux sociaux. Je préfère ne pas me réjouir. On va bien trouver un autre variant pour tout arrêter. Axel attend la mi-mai avec impatience. En plus, c'est son anniversaire le 15. Et si je peux m'installer en terrasse pour boire une coupe, c'est parfait. Yves, de son côté, préfère se dire qu'un retour à une vie à peu près normale n'est pas pour tout de suite. Et vous, qu'en pensez-vous? 3210 dès maintenant sur votre téléphone.
Dernier témoignage sur la question du jour. Faut-il organiser un hommage national pour les victimes du Covid avec Arnaud? Bonjour Arnaud, vous êtes pour une cérémonie?
Oui, bonjour Pascal, tout à fait, tout à fait. Je m'explique. Comment le président de la République nous a dit que nous étions en guerre. Et justement, comment nous avons fait entre parenthèses la Première Guerre mondiale, la Deuxième Guerre mondiale, et pourquoi pas cette troisième fois. Je veux dire, plus tard, pour les petits-enfants ou quoi, il y aura toujours c'est une histoire entre parenthèses formidable, parce que ça s'est passé dans tout le monde. Le monde complet, et puis je veux dire, il faut dire, bon voilà, il y a eu ça à ce moment-là, essayons de ne pas recommencer comme exactement les autres guerres, quoi. Faut faire voir qu'il y a eu quelque chose de très important, et de le remémoriser, faire une stèle ou un monument, et puis le faire tous les ans, quoi, pour mémoriser justement.
Mais par exemple, tout à l'heure, on avait un auditeur qui, c'était Christophe, qui réclamait un jour férié. Vous iriez jusque-là?
On peut-être, enfin, je ne sais pas. Bah, c'est tellement important quand même. On a perdu quand même beaucoup de monde dans toutes les familles, plus ou moins. Et je veux dire, à ce niveau-là, bon, c'est à voir. Mais je veux dire, bon. On fait bien les autres guerres, pourquoi pas? Pourquoi
oui,
pas.
Non, mais ce qui est intéressant dans ce que vous dites, moi je pense pas du tout comme vous, hein, pas du tout.
Ah, oui.
Mais j'ai envie de dire, c'est pas le problème. Et les gens ont toujours raison pour eux. Ça fait 3 ou 4 fois que vous employez le mot guerre. Bon. Pour moi, ce n'est pas une guerre. Donc, je vois pas du tout les choses comme vous. Mais là encore, c'est pas le problème. Ce qui m'intéresse toujours, c'est que il y a des gens qui pensent comme vous. Voilà. Qui considère que ce que nous vivons depuis un an est comparable à la guerre de 14-18. Peut-être pour vous, je ne sais pas.
Une guerre. Un petit peu ce qu'a dit le président, quoi. Je reprends un peu ce qu'a dit
le président. Oui, mais le président, voilà. C'était déjà une métaphore redirait plus, je pense, aujourd'hui, qui était sous le coup d'une forme d'émotion. C'était en mars dernier. Donc, vraiment, je ne partage pas ça. Mais peu importe, je vous le répète, c'est qu'il y a des gens qui ont un rapport à cette maladie qui n'est pas le même que moi et que d'autres, hein, bien sûr. Et
oui,
c'est ça
qui
me frappe. Ouais. Alors que sur une guerre, je pense qu'on aurait tous le même avis si une guerre était déclenchée. Il n'y aurait pas ces différences de sensibilité qui s'expriment.
Oui, c'est parce que c'est quand même mondial. Et je veux dire, bon, il y a quand même beaucoup de morts, quoi, quand même, là-dessus. Quoi, hein,
oui, je vous dis, je ne veux même pas contester, entrer dans des arguments, parce que ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est que vous pensiez ça, vous. Et ça m'intéresse.
Oui. D'accord.
Merci Arnaud. Merci.
Non, merci. Merci de m'avoir contacté.
Quel est le programme cet après-midi?
Là, je suis en camion, je rentre à la maison et puis je vais faire un petit tour à la plage, hein, je suis de Berck. Hein. Alors, profitez, bon, c'est encore un petit peu froid, mais bon, on est bien à la mer quand même, hein, même si c'est le nord.
Hein. Le nord. C'est le nord. Merci beaucoup Arnaud, nous changeons de sujet. Oui.
Jusqu'à 14h30,
les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro.
Alors Jean-Pierre est avec nous et je me souviens qu'il nous a appelé par le passé. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Monsieur Pro.
Vous habitez Saint-Raphaël et vous êtes restaurateur.
Tout à fait.
Et vous êtes intervenu sur l'antenne, je m'en souviens.
Oui, il y a déjà quelques temps, on s'est eu quelques fois, Monsieur Pro, oui, c'est vrai.
Est-ce que vous pensez que le 15 mai, vous serez rouvert ?
Alors, moi, je vais vous dire quelque chose qui ne va pas être corporate. Voilà. Tout dépend des annonces qui vont être faites, mais j'espère que non.
Ça, voilà, c'est étonnant.
Oui, c'est étonnant, je vais vous dire pourquoi. Parce que je pense qu'on va être encore dans l'alambiqué, vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que ça va être les terrasses, les machins, les trucs. Sauf que ça va concerner entre 30 et 40% de mes confrères en France. Voilà. Pour prendre l'exemple que je connais le mieux, c'est le mien. Moi, j'ai pas de terrasse. Donc, je fais comment ? Donc, à la limite,
vous n'ouvrez pas si vous n'avez pas de terrasse. Vous n'ouvrez pas. Voilà. C'est assez simple, pour vous. S'il n'y a que les terrasses qui rouvrent et que vous n'avez pas de terrasse, c'est simple. Vous bénéficiez de vos anciens droits et puis voilà.
Oui. Je suis d'accord avec vous. Mais au bout d'un moment, on travaille pas pour faire la quête.
Oui, mais vous ne travaillerez pas.
Encore une fois.
Je comprends pas. Vous travaillerez pas. Où est le problème ? Vous n'avez pas de terrasse.
Mais
ceux qui ont une terrasse, ils ont le droit de rouvrir.
Oui, je suis d'accord avec vous. Alors pourquoi on n'attend pas un petit peu ? Voilà.
Parce qu'on rouvre ce qui est rouvrable.
Monsieur Pro, ce qui ne saurait tarder, voilà, et que tout le monde rouvre en même temps, je suis désolé.
Pourquoi non ? Je pense aux clients. Pardonnez-moi, mais ça me plaît déjà si les terrasses sont rouvertes le 15 mai.
D'accord, ok, si vous voulez. Donc les uns et les autres, on fait quoi ? On tape du pied ?
Mais vous avez vos aides. C'est pas parce que vous n'avez pas de terrasse qu'il faut en priver ceux qui en ont.
C'est parce que je vous.
L'important, c'est que vous ne soyez pas lésés. Aujourd'hui, vous avez 20% de votre dernier chiffre d'affaires.
Oui.
Bon, ce qui fait si je comprends bien, j'ai quelques camarades restaurateurs qui me disent qu'au moins vous ne perdez pas d'argent. Est-ce que c'est vrai ?
Oui.
Et certains disent même qu'ils en gagnent un peu.
C'est vrai. C'est vrai, tout à fait.
C'est-à-dire que vous gagnez plus d'argent que vous ne gagnez lorsque vous êtes ouvert ?
Non, faut pas exagérer. On en perd, bien sûr.
D'accord. Mais seulement vous avez 20% de votre chiffre d'affaires de l'année dernière ou d'il y a deux ans, je ne sais pas.
2019.
Et vous n'avez aucune charge.
Pour l'instant, non.
Donc cet argent paye à payer vos coûts fixes.
Exactement.
Donc coût fixe, par exemple, qu'est-ce que vous avez comme coût fixe, vous
Comme coût fixe, on a le loyer, on a l'électricité, on a l'eau, et puis les impôts, les choses comme ça.
Quand vous avez payé tout ça, est-ce qu'il vous reste de l'argent ?
Oui, bien sûr.
Cet argent, c'est considéré comme le salaire, d'une certaine manière ?
Bien sûr.
Vous savez que c'est drôlement intéressant parce que moi j'adore les restaurateurs, mais j'ai beaucoup de commerçants d'habits, de qui me disent ils adoreraient avoir votre système.
Mais j'ai rien contre le système, Monsieur Pro.
Vous pouvez le garder pendant que les terrasses rouvrent.
Je ne me plains pas.
Mais laissez rouvertes les terrasses, c'est ça que je comprends pas dans votre raisonnement.
Parce que je voudrais qu'au bout d'un moment, vous voyez ce que je veux dire, au lieu de faire des demi-mesurettes, voilà, que tout le monde puisse rouvrir dans des conditions optimum.
Mais pour vous, ça change rien.
Mais oui, mais on n'a plus envie de ça.
Peut-être envie de rouvrir.
Oui, je suis d'accord avec vous, Monsieur Pro. Non, écoutez-moi. Moi aussi, j'ai envie de rouvrir. Tout le monde a envie de rouvrir, mais au bout d'un moment, ça suffit. Quand vous voyez que les aides du mois de janvier, je les ai eues à 15 jours. voilà, au bout d'un moment, ça, quand, il faut avoir les reins solides pour continuer à, pour continuer à y aller.
Vous, c'est combien de couverts, par exemple, votre restaurant ?
30.
Combien de personnes travaillent avec vous chaque jour ?
4.
Donc tous ces gens-là sont au chômage partiel.
En temps normal.
Chômage partiel, ces gens-là.
Bien sûr.
D'accord. Bon, et puis alors vous, évidemment, ce qui est compliqué, c'est que vous ne travaillez pas et que ce n'est pas agréable. C'est pas, vous n'avez pas envie
On travaille parce qu'on fait l'emporter, mais bon, voilà.
Et l'emporter, c'est déclaré ou c'est pour, dans votre poche directe ?
Ah non, on déclare.
Vous êtes obligé de le déclarer. Mais ça ne vient pas en dessous des 20% qu'on vous donne ?
Non.
Donc c'est en plus ?
Oui.
Non, c'est très... je ne vais pas vous lancer la pierre, hein. Pierre.
Mais vous avez raison. Non, mais je suis d'accord. Oui, mais monsieur Pro,
mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et il y a peut-être des commerçants qui nous écoutent qui disent j'aimerais bien avoir le même système.
Bien sûr.
Parce qu'en fait, vous avez un bon système, on vous a bien défendu. J'allais dire, il y a des bons.
Exactement.
Voilà, vous avez des bons relais.
À aucun moment, monsieur Pro, quand je suis passé sur votre antenne, je ne me suis plaint. Au contraire, moi, je ne me plains pas. Et je ne veux surtout pas qu'on me plaigne. Parce qu'on n'est pas à plaindre. Il y en a qui sont à peindre parce que je sais qu'il y a des restaurateurs...
En fait, vous
ne
voulez pas rouvrir, vous ? Du tout ?
Non, je taquine,
c'est pour rire.
Je vous connais de par les médias. Voilà, je sais comment vous êtes taquin et je le prends très bien. Bon. C'est pas du tout ça. C'est qu'au bout d'un moment, voilà, il va falloir arrêter tous ces protocoles, tous ces.
Voilà, nous sommes d'accord, j'ai compris. Vous êtes où à Saint-Raphaël ? Vous êtes loin de la plage, loin du port, loin de.
Oui, je suis en centre-ville, je suis à côté de la mairie.
D'accord. Et alors, je connaissais Valescure.
Oui.
C'est à côté.
Oui, alors ça, c'est dans les hauteurs, c'est au golf.
C'est drôlement bien, Valescure.
C'est très joli, très sympa.
Moi, j'ai passé des étés à Valescure. C'était vraiment bien, voilà. C'était sympathique.
Et bien voilà, et ben, quand vous revenez, il faut venir me voir.
Bah, je viens moins en ce moment, je viens plus dans l'ouest.
Faut changer de direction.
Mais je suis d'accord, Jean-Pierre. Parce que je me souviens avoir passé 3 semaines. Alors il y a pas un nuage, il y a pas une pluie. Hein, il fait toujours beau chez vous l'été.
C'est vrai. Mais bon, voilà. Je pense qu'au bout d'un moment, faut s'en sortir un peu de tout ça. Je suis d'accord avec vous qu'il faut laisser les terrasses, les machins, etc. Mais pendant ce temps-là, je pense que peut-être 3 semaines, 1 mois, je sais pas. Après, je suis pas aux commandes. Vous voyez ce que je veux dire, voilà. Mais voilà, et que tout le monde puisse rouvrir, voilà, et puis que ça soit un peu sympa.
Et ben,
on se sorte un peu de ce bordel, quoi. Voilà. Excusez-moi.
Je vous excuse bien volontiers.
Qu'on se sorte un peu de ce truc-là, quoi, parce que ça devient un peu. Et puis vous savez, pour en finir, vous savez, au bout d'un moment, et je suis pas le seul, et je suis pas le seul parce qu'il faut être honnête, on a perdu l'envie. Vous voyez ce que je veux dire ?
On me donne de l'envie.
Oui, voilà.
L'envie d'en avoir envie.
Mais là, je vous dis sérieusement, ça va être terrible, on a perdu l'envie. Vous voyez ce que je veux dire ?
Mais bien sûr, on a perdu l'envie d'aller au stade, l'envie d'aller au cinéma, l'envie d'aller déjeuner. On a perdu l'envie et l'habitude. Vous avez raison. Ça va être un drame après.
Et pour nous, et vous savez, quand on parle des faillites, etc., c'est pas maintenant que ça va se passer, c'est dans quelques mois. Et je me mets dedans parce que je suis pas meilleur qu'un autre. Voilà, je me mets dedans. Est-ce qu'on va pouvoir tenir quand il va falloir tout repayer ?
Jean-Pierre, j'ai bien compris.
Oui.
Regardez, une petite chanson pour vous.
Bon, c'est... Allô ?
Oui.
Oui, c'est gentil, mais moi, le jeunis, c'est pas mon truc.
Ah, bon, bah alors, je voulais vous faire plaisir, mais bon. Votre truc, c'est quoi ? On va vous faire plaisir. C'est quoi votre truc en chanson ?
Ah, non, moi, ça serait plutôt un petit Elvis, un petit Gene Vincent, un Eddie Cochran, un Chuck Berry, un Little Richard.
Eh ben, on va aller prendre un petit Elvis, Love Me Tender, ou quelque chose de doux, ou Jalous Rock, pourquoi pas. Bon, allez.
Ben voilà.
Jalous Rock, vous voulez
si vous voulez.
Love me tender, love me sweet. Vous vous rendez compte, on part de Saint-Raphaël, et on arrive à Elvis Presley. C'était pas gagné.
Et vous arrivez à Memphis, 706 Union Avenue.
Bon, ça c'est quand même formidable, le charme de cette émission.
Et quelle réactivité surtout.
Il y a de la musique dans votre restaurant ?
Oui, monsieur.
Bah moi je supporte pas ça. Ah oui, musique dans les restos. Ça, c'est un truc. Je milite contre la musique dans les restos. On n'entend pas son voisin et parfois, c'est horrible. Dans les restos branchés, c'est horrible.
Attendez, il y a musique et musique. Oui, vous voyez ce que je veux dire.
Moi, j'ai pas envie d'écouter de la musique quand je vais au resto. J'ai écouté d'écouter ma fiancée.
C'est pas de la techno, c'est pas voilà.
Ah, j'espère. Après, la techno dans les restos branchés. Tu déjeunes dans les restos à Paris branchés. Tu déjeunes sous une enceinte avec de la techno et dans le noir. Donc tu parles d'un truc.
Non. Ce qu'il faut,
c'est pas du tout un cliché là.
Je vous assure.
Oui, mais je sais. Ce qu'il faut, c'est.
Et tu te fais mal parler par des gens qui te parlent n'importe comment.
Et la nourriture n'est pas bonne en plus, non?
Et la nourriture est vraiment dans les restos branchés et tu payes une fortune.
Voilà. Donc c'est pour ça qu'il faut venir chez moi. Vous verrez la musique et
je taquine. Jean-Pierre. Allez, je vous embrasse parce que là on est complètement en retard. Je dis n'importe quoi.
Ah ok, d'accord.
Mais oui, ça fait 5 minutes qu'on devrait balancer la pause. À tout de suite.
À bientôt, monsieur.
Jusqu'à 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL
avec Pascal Pro. 13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Et Laurent Tessier est là.
Les enfants, les adolescents sont-ils les grands oubliés de cette crise? Emmanuel Macron a annoncé hier la mise en place d'un forfait de 10 séances prépayées chez un psychologue pour les enfants affectés par cette période. Pauline Chaste, chef du service de pédopsychiatrie de l'hôpital Necker à Paris, a de nouveau tiré la sonnette d'alarme dans RTL Midi.
Ce qui nous inquiète beaucoup, c'est que le mois de mars a été vraiment très critique et on appréhende considérablement les mois de mai et juin. On a vu arriver un nombre d'adolescents pour des tentatives de suicide plus élevées que de novembre à février, alors que déjà depuis novembre, c'était anormalement élevé par rapport aux années antérieures.
Comment vos enfants vivent-ils cette période? Que vous disent-ils à la maison depuis un an? 32-10. Jean-Luc Mélenchon est en tournée en Amérique du Sud, l'Équateur, la Bolivie pendant 2 semaines. Est-ce que cela vous choque en pleine pandémie? Vous pouvez réagir dès maintenant au standard.
Merci Laurent. Nous sommes avec Sébastien Molina qui est directeur d'une salle de spectacle à Paris. Lui aussi, il est intervenu régulièrement et on prend de ses nouvelles et on imagine combien c'est difficile. Bonjour Sébastien.
Bonjour Pascal, bonjour toute l'équipe.
Vous êtes soumis aux mêmes conditions que Jean-Pierre?
C'est-à-dire?
Vous avez 20% de votre dernier chiffre d'affaires de l'an passé ou de 2019?
Oui, tout à fait. Comme toutes les sociétés, on bénéficie de cette aide.
Donc, vous ne perdez pas d'argent comme Jean-Pierre?
On ne perd pas d'argent. Non, c'est vrai que pour l'instant, on ne perd pas d'argent. La difficulté, si vous voulez, là, dans cette pseudo-réouverture, d'ailleurs, moi, j'y crois pas du tout à la réouverture. Hein. Je pense que, en tout cas, pour les salles de spectacle, et nous, le grenier dîner-spectacle à Paris, on est aussi on fait du repas. Donc, si vous voulez, on a une double casquette. Donc, c'est doublement difficile. Mais je ne crois pas du tout à une réouverture possible, courant mai. Je pense que, pour nous, salle de spectacle, on va réouvrir au mois de septembre.
Une fois que tout le monde sera vacciné.
Voilà. Et je pense que... Alors, nous, on a une petite structure, le grenier. Donc, on peut redémarrer... très rapidement. Moi, j'ai mes artistes qui m'appellent toutes les semaines pour me dire quand est-ce qu'on démarre. Mais c'est vrai qu'il y a aussi des plus grosses structures qui ont le plus de temps pour mettre en place leur programmation, leur vente. C'est très compliqué. Mais il y a une chose qui est claire, c'est que de toute façon, depuis 12 mois, on nous balade et que tous les mois, on vous dit, vous allez rouvrir dans un mois. Et Pascal, juste une chose. Il y a aussi une problématique économique, c'est-à-dire que là, pour l'instant, effectivement, il y a des aides. Mais je vous donne un exemple. L'année dernière, les salles ont réouvert, ça a réouvert à peu près fin juin, début juillet. Eh bien, en ce qui nous concerne, pour nous qui d'habitude, on tourne, on est carton, ça marche du feu de Dieu, le grenier, eh bien, il n'y avait personne. C'est-à-dire que si on nous rouvre ici, maintenant, au mois de juillet, sans trésorerie qu'on aurait pu accumuler sur des années, on va dire, entre guillemets, normales, années précédentes, eh bien, sans aide, on est mort. Donc, il y a vraiment, vraiment une stratégie de réouverture que le gouvernement doit prendre en compte, parce que, en ce qui nous concerne, nous, dîner spectacle, si on rouvre sans aide, je peux vous dire qu'on ne passera pas le cap. Voilà. Donc, il y a...
Donc, vous voulez rouvrir, mais avoir des aides en plus. Mais
non, pas ce que j'ai dit. J'ai dit...
si on ouvre sans aide.
Oui, oui.
Non, mais donc, vous voulez rouvrir et avoir des aides.
Oui, alors, et avoir des aides si les gens ne sont pas là, puisque l'année dernière, c'était le cas.
C'est bien non, ce que je vous dis.
Bah, oui,
vous me dites, mais, c'est pas ce que j'ai dit, Sébastien. Vous voulez rouvrir et avoir des aides.
Alors, oui, avoir des aides, si je vous dis, si le public
mais
n'est pas
bien,
là.
Mais j'ai bien compris, c'est, mais j'ai, je vous fais préciser votre... Ouais, moi, ouais, je vous reproche vous
avez,
rien.
Non, mais vous avez tout à fait raison.
Ouais.
Et c'est la réalité, puisqu'on l'a vécu l'année dernière sur le déconfinement, le premier déconfinement.
C'est-à-dire qu'effectivement, s'il faut payer les conséquences de la Covid, parce que les gens ont perdu l'habitude d'aller au restaurant et vous donner des aides jusqu'à ce que les gens retrouvent l'habitude d'aller au restaurant ou dans les salles de spectacle, ça va faire lourd peut-être pour le contribuable, Sébastien. Je vous comprends, j'entends, mais...
Non, mais attendez, Pascal, moi... C'est pas moi qui ai décidé de rester chez moi à ne pas travailler.
Oui, j'entends bien, mais il y a un moment, attendez, il va falloir...
Le gouvernement a pris des décisions.
J'entends bien. Jusqu'au bout. J'entends bien, parce que Sébastien, mais je vous dis, après, ça, on rentre dans le subjectif, parce que si votre spectacle n'est pas bon, peut-être aussi que les gens ne viendront pas.
Pascal, le grenier, il y a 42 places. Quand vous mettez des restrictions sanitaires avec 50% de la jauge, vous arrivez à mettre 20 personnes. Comment vous voulez être rentable avec 20 personnes? Et en plus... Notre modèle économique, c'est de faire du dîner plus du spectacle pour pouvoir gagner de l'argent. Si vous faites que du spectacle, vous n'êtes pas rentable. Si vous avez 20 personnes au lieu de 42, vous n'êtes pas rentable. Donc, on est dans une impasse. Donc, je pense qu'il va y avoir des choses à étudier au cas par cas. Les restaurateurs qui ont des terrasses, qui ont 40, 80 personnes en terrasse, ah ben c'est super, il faut les rouvrir, bien sûr. Mais en tout cas, je pense qu'il faut vraiment étudier les choses au cas par cas.
Merci Sébastien.
Merci à vous pour votre soutien.
Vous pouvez compter sur moi. J'ai dit que je paierai double le jour où les restaurants vont ouvrir.
Mais... Bon, vous viendrez, vous louerez la salle juste pour vous, Pascal.
Ah bon, non, j'ai plein de défauts, mais la mégalomanie, c'est pas encore. Je n'ai pas celui-là, peut-être. Hein. Ça
non, mais
ça guette, on ne sait jamais.
Hein, peut-être. Pascal, hein,
la folie. Mais il y a des gens qui font réserver. Dans un film de Lelouch, il y a une scène comme ça. Il a fait réserver tout le restaurant, tout seul pour lui. Et je me souviens, c'est un film avec Bernard Tapie, c'est Ophélie Winter qui jouait. Vous voyez, c'est un film de Lelouch. Et je ne sais plus dans quel film c'est. Mais bon, il faudrait vérifier.
Bah écoutez, Tapie, là, vous viendrez avec Bernard Tapie et Ophélie Winter. Ça vous ferait.
Il avait réservé.
Une bonne journée.
Bon, à plus tard.
À très bientôt. Merci à vous. Au revoir.
Au revoir.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RTL. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Pro.
Nous sommes avec Hubert qui est patron d'un bar à Reims. Bonjour Hubert.
Bonjour Monsieur Pro.
Et merci d'être avec nous.
Il n'y a pas de quoi. Et merci d'avoir pris mon appel.
Je vous en prie.
Donc moi je voulais intervenir un peu sur l'histoire de l'ouverture, mais sur toutes les personnes qui sont oubliées du fonds de solidarité, qui n'ont rien touché depuis des mois.
Parce que vous parlez là de gens qui sont dans la restauration ou de gens qui ne sont pas dans votre secteur ?
Il n'y a pas que dans la restauration. Il y a des entreprises individuelles, il y a des auto-entrepreneurs, il y a des sociétés de restaurants, événementiels et tout. Donc moi, j'en fais partie. Je n'ai rien touché depuis le 8 décembre.
Alors, c'est-à-dire que vous êtes... Alors, pourquoi, par exemple ? Vous êtes le patron de votre bar ?
Oui, j'ai une SASU.
Et pourquoi vous ne bénéficiez pas de, des 20%.
J'en ai bénéficié.
Oui, mais et pourquoi ça s'est arrêté?
Ils nous ont mis des contrôles. Ils veulent des papiers. Maintenant, là, qui demandent le bilan. Donc, un bilan, ça ne se fait pas comme ça. Moi, mon bilan était prévu pour le mois de mai. C'est-à-dire que depuis le 8 décembre, je n'ai pas touché un centime.
Oui, mais alors là, pardonnez-moi, vous êtes peut-être responsable de cette situation. Parce que j'imagine que les autres ont fait le bilan.
Ben, moi, mon entreprise date de 2019.
Oui, mais et j'ai envie de dire...
Mon bilan, moi, devait être fait au mois de mai. Au début, il devait être fait au mois de mai de cette année. Il devait être rendu pour le mois de mai de cette année.
Oui, mais au départ, quand vous avez touché de l'argent, quel papier vous avez donné? Quel chiffre d'affaires vous avez donné?
Au début, ils ne nous ont rien demandé.
Ils vous ont donné de l'argent sans rien demander?
Au départ, ils ne nous ont rien demandé. Moi, j'ai touché jusqu'au mois de novembre, ils ne nous ont rien demandé.
Mais là, vous aviez combien? Vous aviez 20% aussi?
Non, 10%, enfin, pas 10%, 10 000 euros.
Vous aviez 10 000 euros, donc on vous donnait 10 000 euros sur votre compte.
Oui.
Mais votre bar,
j'ai
par exemple.
Une fois 10 000 euros.
C'est indiscret de vous demander le chiffre d'affaires. Vous avez travaillé toute l'année 2019?
Ah ben non, on a été fermé. Hein.
2019.
J'ai repris en décembre 2019.
Donc décembre 2019, donc vous avez travaillé janvier, février et début mars 2020.
Oui, c'est ça.
Bon, et après, vous avez fermé le 17 mars?
Après, on a fermé le 17 mars.
Vous avez rouvert quand?
Le 2 juin.
Oui, et du 2 juin jusqu'en novembre?
Du 2 juin jusqu'en novembre.
Bon, et généralement, durant un mois, le chiffre d'affaires est de combien?
dans les 30 000 euros.
Ah oui, quand même. Et vous êtes combien?
Oui. Ben moi, j'ai 5 salariés.
Donc ces salariés sont au chômage partiel?
Oui, sauf que maintenant, du fait que je ne touche pas le fonds de solidarité, mes salariés, il faut que j'attende de toucher le chômage partiel, qui arrive entre le 15 et le 25, suivant des mois. Pour moi, je leur donne mon salaire.
Vous leur enfin, donnez leur votre salaire?
Non, pas mon salaire, mais leur salaire. Leur salaire. Ce que je touche du chômage partiel. C'est-à-dire qu'au début, quand je touchais le fonds de solidarité, moi, j'avançais. Mmh. Au début du mois, je leur donnais leur salaire. Et moi, le chômage partiel que j'en recevais, c'est leur boucher, quoi. C'est...
Mmh. Ah, là, je ne suis pas un expert. Hein. Là, je vous écoute.
Mais
Hubert,
on est plein.
Mais là, j'imagine que là, vous avez un expert comptable.
Ah ben oui, hein, il est en train de faire des papiers. Mais il y a pas, on est plein de cas comme ça, monsieur.
J'en suis convaincu, c'est pour ça que cette émission existe. Hein,
mais franchement, comment on peut nous laisser pendant 4 mois sans rien?
C'est-à-dire que là, vous n'avez aucune ressource depuis décembre?
Ah ben, moi, depuis le 8 décembre, je n'ai pas touché un centime.
C'est vrai que j'imagine c'est compliqué.
J'arrive plus à payer mon loyer, j'arrive plus à payer mon électricité.
Donc vous aviez peu d'argent de côté, peut-être?
Ben, j'avais un petit peu de trésorerie, mais bon, la trésorerie, elle s'en va, là. Là, donc, je suis en retard sur mon loyer commercial, ma vie personnelle, pareil, je suis en retard sur tout, et il n'y a rien.
Et avant cette affaire que vous avez montée au printemps 2019, vous faisiez quoi?
Moi, je travaillais dans le bâtiment.
Donc, vous avez quitté votre travail du bâtiment pour vous lancer, initiative personnelle, dans le commerce et dans le bar?
Oui.
Donc vous avez investi, j'imagine, un peu.
Oui, j'ai investi.
Et là, évidemment, vous avez investi au mauvais moment.
Ah ben oui, il fallait savoir.
Oui,
mais ce que je
ne
comprends pas dans leur système, c'est que, bon, ok, ils n'ont peut-être pas tous les papiers. Ils nous en bloquent un mois. Ils nous en bloquent 2 mois par sécurité. Mais au moins après qu'ils nous débloquent. Il y a des gens qui...
Mais quel est votre interlocuteur aujourd'hui dans un dossier comme celui-là?
Ah ben maintenant, moi je suis directement avec ma ETI à Reims, hein, parce que la DGFPP 08...
Là, vous parlez chinois, là, j'ai pas compris les deux acronymes que vous avez cités, je sais pas ce que c'est.
C'est-à-dire que je suis en relation avec mes impôts directs maintenant à Reims.
Oui.
Impôts professionnels. Et puis, de l'autre côté, c'est la DGIFPP, c'est le numéro d'appel 08, je sais plus combien. Ouais.
D'accord, et c'est eux qui vont résoudre votre problème?
Ah ben, ils vont résoudre mon problème. Moi, je sais pas comment ça va se passer, parce qu'il y en a qui leur ont fourni tous les papiers, qui leur ont dit « c'est bon, vous pouvez refaire les demandes », et quand ils refont les demandes, c'est refusé automatiquement encore. Il y en a, au bout de 6 semaines après, c'est pas encore débloqué.
Bah, écoutez, Hubert, je ne peux que être en empathie avec vous, parce que c'est le circuit du combattant.
Alors, c'est un circuit du combattant où on nous laisse mourir. C'est incroyable. C'est franchement... moi, je sais que...
Ce qui est d'autant plus dommage, c'est que le secteur, quand ça roule bien, théoriquement, c'est très bien organisé. Et moi, on connaît beaucoup de restaurateurs pour qui ça fonctionne et ça roule bien. Alors vous, effectivement, cette affaire...
Moi, jusqu'au mois de novembre, j'avais pas à me plaindre, hein, tout roulait bien.
C'est pour ça, c'est ça qui est étonnant, ça s'est arrêté. Donc est-ce qu'il y a, pardonnez-moi de leur dire comme ça, est-ce qu'il y a une part de responsabilité aussi de votre côté? C'est ça
que
je ne peux pas évaluer.
Au 8 décembre, on n'avait pas affiché de bilan, puisque mon comptable, il m'avait dit je dois le prendre en avril-mai.
Maintenant, c'est facile à faire un bilan, faut pas 6 mois.
Mais je ne suis pas le seul client.
Enfin, il ne faut pas 6 mois pour faire un bilan.
Ils mettent bien 15 jours quand même. Hein.
Ah oui, mais depuis le 8 décembre.
Ben oui, mais ils ne m'ont pas demandé ces papiers-là le 8 décembre.
Ils vous les ont demandé quand?
Ils ont demandé un chiffre d'affaires. Après, on m'a dit qu'ils font un bilan.
Quand est-ce qu'ils vous ont demandé le bilan?
Au mois de mars, là.
En avril. C'est que fin avril qu'ils vous ont demandé le bilan. Fin mars.
Fin mars, hein.
Je comprends rien. C'est-à-dire que pendant 3 mois, on ne vous demande pas de bilan?
Non.
Et puis fin mars, on vous demande un bilan?
Ah oui.
Et donc, mais pour justifier qu'on ne vous payait pas depuis le 8 décembre, qu'est-ce qu'on vous demandait comme pièce?
Ben au départ, ils demandaient un chiffre d'affaires certifié.
Et vous l'avez apporté?
Ben oui, ça a été fait.
Et donc ça suffisait pas?
Non, après, bilan, parce qu'on n'a jamais les mêmes interlocuteurs.
C'est vrai que
on est beaucoup comme ça.
Mais j'entends bien, Hubert,
c'est incroyable.
Je comprends. C'est là que je sais pas si l'ami Martial Liu nous écoute ou pas, mais je suis pas un spécialiste évidemment de ces questions-là.
Moi, je suis pas contre les contrôles. Il y a eu des abus.
Bien sûr.
Je suis pas contre les contrôles, mais.
Bon, courage, Hubert.
Hubert,
ce que je vous propose, c'est qu'on suive votre dossier, parce que ça, je trouve ça vraiment intéressant pour le coup. Est-ce que c'est possible que vous nous appeliez là où on est aujourd'hui, jeudi, donc vendredi, ça sert à rien, mais lundi ou mardi, pour savoir si ça a avancé?
D'accord, oui, mais ça avance pas comme ça. Hein. Parce que quand on leur envoie les papiers, mettre 15 jours, 3 semaines à vous répondre sur un mail. Hein.
Bon, bah écoutez, parce appelez-nous quand vous voulez.
Parce qu'on peut même plus se déplacer là-haut, il y a ça. Non, mais prenez pas ça mal.
Non, mais je prends pas ça mal, je pense à vous, je trouve ça, je n'arrive pas à comprendre pourquoi ça ne fonctionne pas. Voilà.
Ah mais ça fonctionne pas, il y a tellement, je pense qu'il y a tellement eu de contrôles qui sont pas assez de personnel, ils sont débordés. Bon. Pour moi, ils sont débordés. Il y a des cas où ils ont tout envoyé les papiers, au bout de 6 semaines, on leur a répondu que c'était bon.
Donc bon, Hubert, il est 13h59, donc je vous coupe parce que ça va être le flash et on va être en retard au flash. Courage et vous nous rappelez. Voilà. Quand la situation évolue, vous nous rappelez. Je le dis à Laurent Tessier, on va essayer de garder les coordonnées d'Hubert. Parce que si vous ne nous rappelez pas, nous, on va vous rappeler. La pause, le flash, à tout de suite.
Pascal Pro, les auditeurs ont la parole sur RT.
Il est 14h01. Sébastien Rouxel.
Le Parlement adopte définitivement le projet de loi Sécurité globale, texte très controversé, notamment pour son article 24 sur la diffusion de photos de policiers. Réécrit, il pénalise dorénavant la provocation à l'identification des forces de l'ordre. Des mesures supplémentaires imposées aux voyageurs en provenance de Guyane. Depuis hier, des tests antigéniques sont réalisés systématiquement à l'arrivée à l'aéroport d'Orly. Et ce, en attendant l'arrivée des autotests livrés la semaine prochaine. Ils devront être effectués avant l'embarquement à Cayenne. Nouveau tour de vis pour éviter l'importation du variant brésilien. Il est responsable de la majorité des contaminations dans cette région frontalière du Brésil. Quand pourront rouvrir les théâtres, les cinémas, les restaurants et à quel rythme? À 18h, Emmanuel Macron reçoit à l'Elysée une partie du gouvernement pour en discuter. L'objectif, définir un calendrier précis secteur par secteur. Préparer la sortie de crise au moment où la France s'apprête à franchir un cap symbolique. La barre des 100 000 morts liés à la pandémie devrait être officiellement franchi dans les prochaines heures. Un travail immense a été accompli. Les mots d'Emmanuel Macron en visite ce matin sur le chantier de Notre-Dame. 2 ans, jour pour jour, après l'incendie qui lui a coûté sa flèche et sa toiture, le chef de l'État a tenu à remercier toutes les équipes mobilisées et a réaffirmé l'engagement de rouvrir la cathédrale en 2024. La météo, demain, ça se dégrade par le sud avec l'arrivée d'averses orageuses, de la neige, même en montagne, ciel chargé également sur le tiers nord, mais le temps restera sec partout ailleurs, de l'Atlantique au centre du pays. On aura encore une journée bien ensoleillée. Côté température, demain matin, ça reste frais avec des gelées toujours en matinée. Dans l'après-midi, il fera 10 à 13 degrés dans le nord, 11 à 16 dans la moitié sud. Les courses, c'était à Auteuil cet après-midi. Je vous donne l'arrivée provisoire le 12, le 6, le 4, le 14 et le 5.
Jusqu'à 14h30, les auditeurs ont la parole sur RTL avec Pascal Pro.
Et nous sommes donc sur la réouverture mi-mai, possible, en tout cas on l'espère, et on est avec Stéphane. Bonjour Stéphane. Vous êtes,
bonjour Pascal.
Vous êtes dans la restauration?
C'est ça, je suis commercial dans la restauration, Pascal.
D'accord. Donc en ce moment, par exemple, vous êtes au chômage?
Non, alors je ne suis pas au chômage, je l'ai été l'année dernière, hein, pendant 3 mois, lors du premier confinement. Et puis après, à force de me retrouver à la maison, c'était compliqué, je suis... Septembre, les restaurants ayant rouvert, ça a été mes 2 plus gros mois de l'année. C'était fabuleux, ça a démarré sur les chapeaux de roue, c'était extraordinaire. Chose qui risque d'ailleurs d'arriver lors du troisième reconfinement, enfin en l'occurrence de la réouverture, parce que là ça va être effectivement un peu le branle-bas de combat. Si réouverture il y aura, parce qu'à mon avis, je suis pas de nature pessimiste, mais le réalisme l'emporte sur l'optimisme. Il est évident qu'aujourd'hui, si les restaurateurs veulent rouvrir, ça va faire comme le personnel soignant, comme pour mettre en 3e confinement les enseignants. Il me semble que le personnel de restauration va devoir être vacciné au même titre que les enseignants, que le personnel soignant, sinon ce ne sera pas possible.
C'est quoi commercial dans la restauration, par exemple? Qu'est-ce que vous faites en ce moment?
Alors moi, je visite, mon fonds de commerce sont les restaurants, bars, hôtel, brasserie, et je vends des produits frais. Donc voilà.
Mais oui, mais en ce moment, comment vous pouvez ne pas être au chômage?
Alors, en ce moment, j'ai encore des restaurateurs qui font de la vente à emporter et grand bien m'en fasse, heureusement pour eux. Alors, c'est pas les mêmes quantités qu'on a pu connaître auparavant, mais.
Donc vous leur vendez encore des produits frais que eux-mêmes revendront?
La marchandise fraîche que eux reconditionnent, que eux retravaillent. Mmh. Hein, ça peut être du fromage, la crèmerie, la charcuterie, la viande fraîche. Et puis, tout simplement.
Et vous arrivez à vous en sortir? C'est pour une société, j'imagine. C'est pas à titre individuel.
Non, je travaille pour une société. Je suis salarié d'une société.
Ouais.
Hein, qui est donc grossiste en produits de crèmerie, de fromage et de charcuterie.
D'accord.
Donc non, c'est très très compliqué financièrement, et ça c'est vrai qu'on en parle aussi très très peu, mais c'est vrai que ce fichu Covid a touché tout secteur d'activité, toute activité et toute personne, en l'occurrence les commerciaux, les premiers les touchés, puisque vous n'êtes pas sans savoir qu'on est aussi payé par rapport à ce qu'on vend. Donc oui, ma fiche de paye a sérieusement fondu au soleil.
Oui, parce que les commerciaux, généralement, vous avez un fixe, et puis après, vous êtes sur la com.
C'est ça, tout à fait.
Donc la période est...
Ça va faire un an que je n'ai pas touché de commission, Pascal. Je ne vis qu'avec mon fixe. Et le midi, je mange un misérable sandwich dans ma voiture. Donc, alors il y a des situations qui sont bien pires que la mienne, hein, je vous rassure. Mais,
non, mais c'est difficile,
c'est très
quoi.
C'est très, bon. Très compliqué.
Bah, merci Stéphane, bon courage, merci de votre sincérité, merci de ce témoignage. Et on va parler maintenant des grands oubliés de cette crise Covid, je le disais tout à l'heure, qui sont peut-être les enfants et les grands-enfants, on va dire de 5 à 17 ans, et notamment ceux qui ne peuvent plus faire de sport. Et vous savez, si vous nous suivez régulièrement, combien c'est un cheval de bataille, le sport, la compétition, l'entraînement, se dépenser, apprendre une vie de sociale avec le sport, c'est déterminant dans la construction d'un enfant et d'un ado. À tout de suite.
Pascal Praud, les auditeurs ont la parole sur RTL. Pascal Praud,
les auditeurs ont la parole sur RTL.
On est avec Louis, qui est collégien. Bonjour Louis.
Bonjour.
Donc tu as... Je vais te tutoyer si ça t'ennuie pas.
Yes, non, pas de problème.
Bon, tu as 14 ans.
Ouais, c'est ça, j'ai 14 ans.
Bon, et est-ce que tu faisais avant la crise du Covid du sport ?
Ouais, bah, je faisais avant la crise du Covid, donc avant le mois de mars 2020, je faisais beaucoup, beaucoup de sport. Bah, je faisais du foot, je faisais du tennis. Et du coup, depuis le mois de septembre, depuis le mois de septembre 2020, du coup, j'ai arrêté le foot et je faisais plus que du tennis, mais j'en faisais quand même pas mal. Et du coup, bah, là, je peux plus faire de sport depuis le mois d'octobre. Et du coup, en fait, je devais reprendre le tennis là. Je crois aujourd'hui, mais en fait les terrains ils sont pas en bon état, donc on peut pas du tout faire de sport, donc c'est un peu chaud quoi.
Bon, est-ce que tu fais un peu chaud, oui, comme tu dis, est-ce que tu fais un entretien physique, est-ce que tu fais des footing?
Ouais, j'essaie de courir un peu, parce que en fait le truc c'est que je suis diabétique de type 1, et en fait si je fais pas de sport, si je bouge pas, en fait je suis totalement déséquilibré, et c'est très mauvais, et je suis vraiment pas bien du tout, et du coup, j'essaie de faire du sport. J'essaie de faire, je cours. J'ai la chance d'avoir un jardin. Du coup, je cours dans mon jardin. Je vais faire du vélo autour de chez moi, tout ça, quoi.
Bon, ça, c'est pas mal. Ça, c'est un moindre mal. Mais tu n'as plus le rapport à la compétition, et puis tu le fais tout seul, ça.
Ouais, voilà, carrément.
Alors que le foot, tu le faisais dans un cadre associatif. T'étais dans un club.
Ouais, c'est ça. Bah, j'étais dans un club. Et donc on avait un championnat, on jouait des matchs.
Donc tu jouais tous les dimanches. Et t'avais combien d'entraînements par semaine ?
J'avais deux entraînements de 2 heures par semaine, donc c'était quand même déjà pas mal, quoi.
D'accord. Et tous tes amis sont dans le même état que toi, c'est-à-dire qu'il y a plus de compétition de foot. Le club, par exemple, il ne fonctionne plus ?
Alors le club, je sais pas trop, parce que j'y suis plus du coup depuis le mois de septembre, mais. Vu que les championnats amateurs, ils ont été arrêtés, je crois, définitivement, jusqu'à la fin de la saison, c'est...
Non, mais c'est ça qui est complètement fou. Le foot, ça se passe quand même à l'extérieur, ouais, hein, je le rappelle. Il n'y a aucun cas de contact, de contamination à l'extérieur. Et on interdit les gens de jouer au football en France, quoi. Je vous assure, on est chez les fous, en fait, avec cette maladie. Non, mais... Alors, les sports collectifs... À l'intérieur des salles, déjà, a priori, il n'y aurait pas 50 000 risques, parce que les salles sont très grandes, parce qu'elles sont aérées souvent, mais bon, c'est déjà fermé. Le basket, il n'y a pas un entraînement de basket, il n'y a plus de club de basket, il y a tout ce qui est en intérieur ne fonctionne plus, mais le foot ne fonctionne pas. Ouais. Et le tennis, tu étais dans un cadre aussi d'association, ou tu le faisais avec des amis ?
Le tennis, j'étais en club du coup, et en fait je devais reprendre aujourd'hui là, mais en fait on a reçu un mail comme quoi en fait les terrains extérieurs en fait en terre battue étaient pas en bon état du coup, parce que avec l'hiver tout ça ils sont pas aménagés.
C'est mieux si c'est du quick comme on disait. Je ne sais pas si ça existe toujours, le quick.
Ouais, non, je ne sais pas trop.
Bah, le quick, c'est, ça ressemble au goudron, mais c'est quand même, c'est pas du goudron. C'est du quick.
Ah ouais.
Les terrains de tennis en quick. Vous connaissez le quick, Greg Caranoni, j'imagine ?
Non, la restauration rapide, oui, mais pas le.
Non, mais pas le revêtement. Vous savez qu'un terrain en quick ?
Non, pas du tout.
Non, vous n'êtes pas doué. Bon, Louis, terminé. Termine, Louis.
Ouais, bah du coup, j'essaye de m'occuper autrement. Je fais en fait là en ce moment, du coup, j'organise un festival de musique virtuelle, voilà, dans avec des groupes de ma région et pas que de ma région aussi. Et bah du coup, je toute la journée, j'organise mon festival, je fais des interviews des artistes. Ça me prend bien ma journée et voilà, c'est le Back to the Lockdown Festival. Je l'ai appelé comme ça et j'organise ça avec un pote, mon meilleur pote qui s'appelle Victor, et du coup on organise ça ensemble et ça nous occupe bien. Et
bon, bah écoute Louis, j'ai compris, merci, c'est sympa de nous avoir appelé. T'as des frères et sœurs?
Ouais, j'ai une sœur, elle est étudiante.
Et elle fait du sport?
Non, pas trop, enfin bon. Elle court un petit peu, mais voilà quoi.
Bon, et ben Greg Caranoni me demande, est-ce que vous avez une page Facebook? Je ne comprends pas pourquoi. Pourquoi cette question, Greg Caranoni?
Bah pour leur faire un petit peu de pub.
Ah bah pour faire un petit peu de pub. Alors, un petit peu de pub à qui?
Bah au club.
Ah, au club. Bah, bien sûr. J'avais pas compris que c'était au club.
Bah, pardonnez-moi.
Ah, oui. D'accord, au club. Je pensais que c'était lui. Bah oui, si vous avez une page Facebook pour ton club, Louis, on fera de la pub. C'est quoi? C'est quoi ton club?
C'est le tennis club de Liévin.
Que tennis club de Liévin. Alors, je précise que le revêtement de type quick est constitué de béton poreux. Voilà, autrefois réalisé en dalles de béton poreux, les cours de quick en dur, encore le plus souvent appelés quick, sont actuellement réalisés en asphalte poreux par quelques rares sous-traitants spécialistes du bitume. Je pensais que, voilà, vous aurez appris.
Merci beaucoup.
L'autre jour, c'était Ad Patres, et là, c'est quick. C'est pas la même chose. Bon, merci Louis.
Bah, merci beaucoup.
T'es sympa en plus, hein, t'as la pêche.
Yes. Bon, ouais, moi, je suis positif.
Oui, tu dis. Et t'es en vacances, là?
Ouais, c'est ça, je suis en vacances.
Bon, donc tu fais rien?
Bah, en
t'es
fait,
sur les écrans, c'est ça qui est dommage.
Non, en fait, je suis pas sur les écrans. En fait, du coup, j'organise mon festival parce que mon festival est prévu pour le 24 avril.
C'est un festival de quoi?
En fait, c'est un festival de musique virtuelle.
Ah bon?
Et du coup, c'est un live. Ça va être un live qui sera diffusé sur Facebook et YouTube en même temps.
D'accord.
Et du coup, ça s'appelle le Back to the Lockdown Festival. Et voilà.
Bah, c'est bien. T'as une amoureuse? Un amoureux?
Non, pas.
Ouais, ça tranquille. Me regarde pas, hein. Tu as le droit de me dire que ça me regarde pas. Hein.
Yes, non. C'est libre.
C'est libre. Bon, bah écoutez.
C'est libre. C'est...
Merci Louis. Merci beaucoup. On va changer de sujet. Ce sujet qui arrive est infiniment plus dramatique que la légèreté de la conversation qu'on avait avec Louis, puisque c'est Sarah Halimi, et vous le savez sans doute, il n'y aura pas de procès pour le meurtrier de Sarah Halimi. La Cour de cassation a confirmé hier l'irresponsabilité pénale du meurtrier, Sarah Halimi, qui est cette sexagénaire juive qui avait été tuée en 2017 à Paris. Ça fait réagir fortement, et pas simplement les juifs français. A tout de suite.
Pascal Pro. Les auditeurs ont la parole sur RTL.
La vie flamande.
C'est tout à l'heure, juste après les auditeurs ont la parole sur RTL. Avec vous, Pascal Pro.
Il est donc 14h16 et effectivement, on sera avec Flavie dans quelques secondes. Je vais rappeler peut-être les circonstances dans lesquelles Sarah Halimi est décédée. Kobi Lee Traoré, qui a 27 ans, de confession musulmane, fait irruption chez sa voisine de 65 ans, Lucie Attal, aussi appelée Sarah Halimi, au cri de Allah Akbar. Il la roue de coups en récitant des versets du Coran avant de la jeter par-dessus le balcon de leur HLM de Belleville, dans l'est de Paris. Le jeune homme, fort consommateur de cannabis depuis l'adolescence, est arrêté. Il est immédiatement hospitalisé. D'ailleurs, il est toujours hospitalisé aujourd'hui. Et on le considère, la Cour de cassation, tout en entérinant le caractère antisémite du crime, a confirmé ce mercredi l'irresponsabilité pénale du meurtrier, pris d'une bouffée délirante lors des faits. Évidemment, ça fait fortement réagir. Nous sommes avec Christian, qui habite Toulouse. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous.
C'est moi qui vous remercie de m'écouter. Voilà. Hier, j'ai eu encore un choc. Un grand choc, parce que je m'aperçois que la France a pris une décision, par sa justice, de donner encore une impunité. On sait très bien que ce garçon était sous l'effet de la drogue. Donc ça veut dire que quand on prend de la drogue, eh bien, on devient irresponsable. Puisqu'il n'avait pas d'antécédent.
C'est pas ce que dit la Cour de cassation. Là, je vais me faire l'avocat du diable, si j'ose dire, hein, puisque la Cour de cassation ne dit pas ça. Et,
oui.
Et la Cour de cassation réfute l'idée qu'il suffirait d'être sous alcool ou sous drogue pour être déresponsabilisé du crime qu'on a fait. C'est ce qu'elle dit. Mais en même temps, c'est là qu'il y a ambiguïté. On a précisément l'impression que c'est ça.
Mais bien sûr, puisque les psychiatres eux-mêmes vous disent que l'alcool, la drogue, est un effet qui aggrave la situation. Vous avez que 2% ou 3% de schizophrènes en France, ils passent tous à l'acte. Mais souvent, quand ils passent à l'acte, il y a derrière un problème de drogue et d'alcool. Je vous rappellerai l'affaire de Pau, où quand même il avoue avoir fumé 23 cigarettes de cannabis avant de passer à l'acte. Je vous rappellerai l'affaire de Gaillac, où le gars était sous l'emprise d'alcool, de drogue et tout, où il a tué Madame Roque. Et je pourrais vous en citer bien d'autres. Bon, le problème, c'est que maintenant, tout passe en irresponsabilité pénale, jusqu'au racisme. Bon, vous avez l'affaire Alami, vous avez aussi l'affaire Selam, à Kota aussi, où un jeune juif a été assassiné par un garçon qui mettait des croix gammées sur les portes et tout. Là aussi, il a été jugé irresponsable. C'est grave parce que je pense que hier on a pris encore un tournant et moi je pense que bientôt en France, ben, quand vous aurez un litige avec vos voisins, vos professeurs, vos patrons et tout, ben, si vous prenez de la drogue ou de l'alcool, ben, vous aurez le droit de... On dira que vous êtes irresponsable. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette irresponsabilité pénale, elle est décidée par qui ?
Par les magistrats.
Par les juges et les experts.
Oui, alors, c'est les magistrats qui décident, mais ils s'appuient sur des experts.
Voilà. C'est un petit peu comme aujourd'hui les décisions de nos gouvernements. Est-ce que c'est le gouvernement qui décide ou est-ce que c'est le comité de santé qui décide ? C'est un petit peu pareil. L'un dit que c'est l'autre, l'autre dit que c'est l'un. Alors, le problème, c'est qu'aujourd'hui, vous avez vous avez par exemple l'affaire de l'institutrice Albi, où le juge a dit carrément à la famille « Madame, je ne suis pas expert, c'est l'expert qui m'a dit que... » Voilà. Et ça, voilà des... Alors, le problème, c'est ces experts. Ces experts. Ils disent tout et leur contraire.
Non, mais vous n'avez pas tout à fait tort. Alors, comme il reste peu de temps et qu'il y a beaucoup de gens qui ont appelé, je voulais peut-être qu'on ait un autre témoignage. Merci beaucoup, en tout cas, Christian. Je voulais qu'on parle quelques secondes avec Laurent. Ce qui est tout à fait étonnant, c'est que, je le répète, la Cour de cassation entérine le caractère antisémite du crime. En fait, elle l'entérine parce que c'était la Cour d'appel qui avait là-dessus pointé le caractère antisémite. Mais malgré cela, elle confirme les responsabilités pénales du meurtrier. Et ça, pour le béotien que je suis, qui est difficile, disons, à comprendre. Laurent, bonjour.
Oui, bonjour, merci de prendre mon appel. Juste pour rebondir sur le précédent auditeur, j'ai vu ce matin sur Internet, j'ai essayé de retrouver, mais je n'ai pas réussi, qu'un des experts interrogés est un des experts du collège d'Outreau. À vérifier, mais déjà ça éclaire cette histoire un petit peu différemment. J'ai également lu, je voudrais juste citer ce qu'un des avocats a dit, Maître Golnadel en l'occurrence, qui disait qu'en fait on crée une jurisprudence Traoré, donc il suffira quand vous aurez renversé trois personnes sur un passage protégé de dire que vous aviez bu...
Elle se défend de ça, là encore je me fais l'avocat du diable, elle se défend de ça, bien sûr, elle se défend de ça, elle dit qu'il ne faut pas confondre, elle dit qu'il y a bouffée délirante qui est au fond pas lié à l'alcool et pas lié à la drogue. Ben,
celui qui renverse quelqu'un, on ne peut pas dire que c'est pas lié à son alcoolisme. Celui qui tue quelqu'un en disant qu'il a choisi la seule juive de l'immeuble,
mais je suis d'accord. Mais c'est pour ça d'ailleurs que le caractère antisémite est reconnu.
Voilà, c'est un mauvais signal qu'on envoie aux gens parce que ça pousse les gens d'une part à voter vos extrêmes, en l'occurrence l'extrême droite, et à s'armer. Ça va finir par faire des milices. Et le problème, c'est qu'on a l'impression qu'on quitte une justice technicienne pour passer sur une justice beaucoup plus politique. Enfin, j'exagère un petit peu. Mais les gens prennent en compte d'autres choses que les, que le caractère purement technique de la chose. C'est un peu comme l'histoire d'Evian, qui s'excuse pour... on rend d'autres critères que les critères objectifs de ce dont on parle. Voilà, c'est assez désolant, je trouve.
Alors, la LICRA, d'ailleurs, a tweeté aujourd'hui: l'irresponsabilité pénale de l'assassin de Sarah Halimi a été confirmée par la Cour de cassation. Il n'y aura pas de procès de ce crime antisémite. C'est un drame supplémentaire qui s'ajoute à cette tragédie. Est-ce qu'on a le temps de prendre un dernier auditeur?
Merci,
je n'en suis pas sûr. Ça va être le débrief de Laurent Tessier dans une seconde. Merci à Laurent et à Christian. Pardon à Anna qui était avocate et qui attendait. Et vraiment, j'en suis désolé, mais c'est l'heure du débrief. Monsieur Tessier.
13h, 14h30.
Les auditeurs ont la parole sur RTL. C'est l'heure du débrief de l'émission par Laurent Tessier.
Tout de suite, là. Ça a commencé.
Ah ben oui, Alain Finkielkraut, le débrief a démarré. C'était la question du jour. Faut-il organiser une commémoration, un hommage national pour les victimes du Covid? Sandrine est infirmière. L'idée ne lui plaît pas.
Je pense qu'il y a bien d'autres priorités. En France, on a quand même 157 000 morts du cancer par an. Il n'y a pas de deuil national. Me dire que je suis sans cœur, alors là, non.
Christophe, lui, est plutôt favorable à cet hommage.
Sous une forme de jour férié, pourquoi pas? Nos ados pourraient effectivement se souvenir de ces 100 000 morts. C'est le cœur qui parle.
Et sinon, Franck, comment peut-on vous présenter à l'antenne?
Je suis un enfermiste.
Donc vous souhaitez enfermer tout le monde?
Pas du tout. Moi, ce que je souhaite, c'est
un enfermiste, ça enferme tout le monde.
Oui, mais si on enferme, derrière, il faut vacciner.
Et en ce moment, Pascal, je ne sais pas ce qui se passe. On ne vous répond pas. Hier matin, sur CNews...
Monsieur Finkielkraut?
Je vais répondre.
Ah, aujourd'hui, c'est Greg Caranoni qui était ailleurs.
Greg Caranoni, que je salue en ce jeudi.
Je vais vous répondre. Vous dites... L'émission a commencé?
Oh, ça c'est rigolo.
Pascal, on vous titille décidément. Une petite réponse?
C'est vrai qu'avec votre réalisation, ça s'était pas vu.
Ouais. Ouais.
Qu'est-ce que vous êtes dur, mais c'est vrai que vous auriez pu être... Emmanuel Macron préside en fin de journée une réunion sur un calendrier de réouverture progressive, secteur par secteur. Et vous avez fait un pari il y a quelques semaines, Pascal.
Moi, je vous parie ma chemise que le 15 mai, je ne serai pas dans un restaurant.
Okay. Eh bien, préparez les chemises, amis, je rappelle quand même.
Je suis nul en pronostic.
Parce que vous pensez qu'on sera le 15 mai dans un restaurant?
Ah non, mais je vous ai laissé faire le pronostic.
Ah bon?
Eh oui, c'est comme
ça.
Vous
dites préparer les chemises.
Bah, préparer les chemises, on sait jamais.
Oui.
Voilà. Et c'est vrai que vous voyez, vous prenez que de temps en temps quelques risques.
Dis n'importe quoi.
Bah, ça, on verra le 15 mai, évidemment. Bon, si vous perdez votre pari, que ferez-vous pour tous les restaurateurs de France?
Je paierai double le jour où les restaurants vont ouvrir.
Bon, c'est bien noté. Jean-Pierre, restaurateur à Saint-Raphaël, il nous a appelé au 3210.
Vous savez, au bout d'un moment, et je suis pas le seul, et je suis pas le seul parce qu'il faut être honnête, on a perdu l'envie. Vous voyez ce que je veux dire?
On me donne l'envie.
Oui, voilà.
L'envie dans l'envie.
Alors Jean-Pierre, est-ce que ça vous plaît?
Ah non, moi ça serait plutôt un petit Elvis.
Bon, c'est bien noté. Une dernière question, Pascal.
T'as une amoureuse?
Oh, vous êtes bien curieux. Allez, le débrief pour aujourd'hui, c'est terminé. Jean-Pierre, on va vous faire plaisir avec le King. Step on my blue suede shoe. Quelle danse, quelle choré sur ta poitrine. Well, you can knock me down, step in my face, slander my name all over the place. Well, do anything that you wanna do, but not, honey, lay off them shoes and don't you step on my blue suede shoe. Well, you can do anything, but take me over my blue suede shoes. Let's go, cat.
On n'a pas envie de le couper, hein?
On est bien, hein?
C'est commencé? Par contre, c'est fini, là, Pascal.
Il va falloir nous laisser maintenant, monsieur. Flavie Flamand dans une seconde, et elle m'a demandé de rester. Alors, je suis très, très inquiet. Je ne sais pas pourquoi. Elle a des questions à me poser, Madame Flamand. À tout de suite.
Les auditeurs ont la parole sur RTL.
Avec Pascal Praud.